Nous allons accueillir maintenant Fabrice Xil. Voilà, c'est votre tour. Professeur de l'École des hautes études en santé publique, co-directeur de l'espace éthique Île-de-France. Vous allez nous parler du choix de non-abandon. Et pour vous faire une petite confidence, il y a quelques minutes, j'ai discuté avec une de nos invitées aujourd'hui qui est touchée elle-même par la maladie Alzheimer. Elle s'appelle Catherine. Peut-être bien qu'on va écouter ses questions derrière. Et elle dit à quel point c'est important de souligner quelle place la société laisse aux patients Alzheimer et comment on va vivre tout ça et améliorer les choses. Alors voilà, je l'ai rassurée, je lui ai dit que c'était justement le thème de votre intervention. Vous allez nous parler de comment assurer toute sa place à notre proche touché par la maladie dans nos vies, dans la société. Et c'est une question extrêmement sensible. Catherine nous le rappelait. Je vous écoute.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En 30 minutes, je ne vais pas faire un exposé exhaustif sur l'ensemble des questions d'éthique que peut générer, soulever la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et je vous expliciterai à la fin de mon exposé pourquoi j'ai choisi ce sous-titre, le choix du non-abandon. J'espère qu'au fil de mon exposé, vous comprendrez progressivement ce que je mets derrière ces mots. J'ai choisi de m'intéresser et de vous parler de ces questions en partant d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu. Il s'appelle Still Alice. Le personnage principal est interprété par Julianne Moore. Il s'agit d'Alice Holland, qui est professeure de linguistique à l'Université Columbia à New York. Elle a 50 ans au début du film. Elle est mariée à un biologiste, John, que vous voyez à gauche, Alec Baldwin. Elle a 3 enfants, Lydia, Anna et Tom. Quand le film commence, elle est à l'apogée de sa vie. Et c'est une mère de famille heureuse, une épouse heureuse, une chercheuse en linguistique qui est invitée à l'autre bout du pays, à UCLA, à l'Université de Los Angeles, pour faire des conférences qu'elle fait généralement sans aucune note, avec beaucoup d'humour et de spiritualité. Sauf que de premiers signes de difficultés cognitives apparaissent assez rapidement. Il y a du manque de mots dans certaines conférences. Et puis un jour sur le campus, elle fait des joggings réguliers sur le campus de Columbia. Et un jour sur le campus, elle arrive à un embranchement et elle est perdue. Elle ne sait plus quelle est la direction. Et donc les deux réalisateurs, Wash Westmoreland et Richard Glatzer, qui ont fait ce film en 2014, c'est l'adaptation d'un roman, montrent comment sa vie, à elle, à Alice, et la vie de ses proches va être modifiée. J'ai eu envie de prendre ce film comme fil conducteur un peu de la réflexion que je voudrais avoir devant vous. Je vais essentiellement aborder 3 grandes idées. Je ne vais pas vous développer beaucoup d'idées, mais je vais essayer d'en approfondir 3. La première, on va se placer du côté des aidants familiaux, des aidants professionnels aussi, des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, que ce soit des médecins, des psychologues, des infirmières, des intervenants à domicile. On va se placer à la fois du côté des professionnels, mais d'abord, je vais me placer du côté de ceux qu'on appelle les proches aidants ou les aidants familiaux, et essayer de vous montrer à quel point, mais vous vous en doutez, mais de le creuser un tout petit peu philosophiquement, en quoi cette maladie peut constituer une épreuve relationnelle. Lorsque Alice Holland, dans le film, annonce à son mari, Alec Baldwin, qu'elle est atteinte d'une maladie d'Alzheimer à début précoce, vous savez que c'est une forme rare, que la maladie survient généralement à des âges plus avancés, ils ont une espèce de nouvelle lune de miel, hein, ils vont dans la résidence secondaire et il y a un moment de rencontre, d'échange entre eux, ils étaient dans leur vie, ils étaient dans leurs obligations, ils étaient dans leur métier, et il y a quelque chose, la maladie pendant un temps les rapproche. Mais ce que fait surtout la maladie à ce couple, c'est une espèce de distanciation progressive très importante. Là, on est à la fin du film. Ils sont en train de manger une glace. Vous voyez que le visage d'Alice a changé. Et vous voyez que le regard de son mari est un regard interrogateur, un regard de difficile reconnaissance. Ils sont devant l'Université de Columbia et il dit « Est-ce que tu sais ce que c'est que ce bâtiment ?» Non, répond Alice, elle n'a plus aucun souvenir de sa carrière d'enseignante, qui était pourtant une composante très importante de son identité. Et on voit à quel point Alec Baldwin est à la fois interrogatif, attristé, peiné, encore aimant, mais à quel point toutes ces émotions sont présentes et à quel point c'est une épreuve relationnelle au sens où ça met en question la reconnaissance, la reconnaissance par son époux de cette femme qu'il aime. Alors il y a deux philosophes, qui ont vécu cette expérience-là. Le premier est Michel Malherbe, le second, je vous en dirai un mot, c'est Jean-Pierre Vernant. Deux hommes qui ont été des philosophes, qui sont des philosophes, et qui ont accompagné leur épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Michel Malherbe, pour lui, son vécu philosophique, si vous voulez, de cette épreuve, c'est d'une personnalité qui s'en va. Et Michel Malherbe dit souvent, quand on me demande si elle me reconnaît encore, alors que moi, mon problème, c'est que moi, j'ai du mal à la reconnaître. Et donc, il le formule philosophiquement comme ça. Quand le corps seul est affecté, on se dit que l'esprit, du moins, n'est pas troublé. Quand le corps est affecté et que l'esprit a perdu sa lucidité, on se dit qu'à tout le moins, l'âme demeure, principe inchangé. On se dit malgré tout qu'un certain quelqu'un subsiste. Mais supposons que ce soit précisément ce quelqu'un, cet ultime support qui soit devenu Alzheimer et qui s'anéantise à l'état vif. Comment alors poursuivre un récit qui sera sans héros? Est-on sûr qu'il y a encore quelqu'un dont on puisse dire qu'il souffre et qu'il meurt? Donc la question que se pose Michel Malherbe, c'est de dire qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer fait à l'identité personnelle de celles et ceux qui en sont atteints, et est-ce qu'on arrive encore jusqu'au bout à rester en relation? Et on voit, vous voyez, que lui a beaucoup de mal, et il est notamment du mal parce que la personne malade, du fait notamment des troubles de la mémoire, a du mal à être porteuse elle-même de son histoire, de son identité, des souvenirs partagés. Et donc lui, il a l'impression, mais il y a d'autres aidants qui décrivent ça comme ça, comme un continent qui se détache et une distance qui se creuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre philosophe qui avait à peu près le même âge, un helléniste aussi célèbre, Jean-Pierre Vernant, qui a accompagné son épouse dans les années 90, et qui dit de manière beaucoup plus nuancée que Michel Malherbe, il n'est pas tout à fait exact d'affirmer « ce n'est plus lui, ce n'est plus elle ». C'est vrai et ce n'est pas vrai. Quand ma femme était vraiment très atteinte et qu'on disait qu'elle ne se souvenait plus des choses, qu'elle ne vous reconnaissait plus, vraiment, j'ai eu la preuve, après une absence, que quand elle m'a vu, elle m'a très bien reconnu. Et non seulement cela, mais même si elle ne parlait plus, si elle ne semblait plus faire attention à ce qui se passait autour d'elle, il y avait une couche dans son psychisme, peut-être très biologique, très profonde, très instinctive et affective, où les choses étaient encore vivantes, parce qu'elle me reconnaissait de façon indubitable. Vous voyez, deux expériences analogues de deux personnes avec une culture philosophique qui accompagnent leur épouse dans une maladie qu'on pense être analogue et qui la vivent de manière assez radicalement opposée, l'un comme une forme de disparition de la personne avant son décès et l'autre comme quelque chose de beaucoup plus ambigu où il y a du « ce n'est plus lui, ce n'est plus elle », mais il y a aussi autre chose et il y a aussi la persistance d'autre chose. Je crois qu'il y a une formule qui est très utilisée dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, qui est le deuil blanc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'idée qu'on fait le deuil de la personne, de son âme, de son identité avant son décès. Je trouve que ce que dit Vernant là nous incite à être très vigilants vis-à-vis de cette notion. Et vous voyez qu'il le situe encore du côté de la vie. Hein, une couche dans son psychisme, peut-être très biologique, très profonde, où les choses étaient encore vivantes. Bon, ça me semble très important, ça. Si on passe du côté des aidants qu'on dit professionnels, il y a une sociologue qui s'appelle Lucille Lechevalier-Hurard qui a publié il y a quelques années un très bel article qui s'appelle « Être présent auprès des absents ». Elle est allée étudier pendant plusieurs mois le travail d'aide-soignante en unité de soins de longue durée et en EHPAD, et notamment le travail des aides-soignantes auprès des personnes ayant une maladie d'Alzheimer très évoluée. Quand la relation est difficile, quand vous entrez dans la chambre, que vous parlez à la personne et qu'elle ne répond pas, quand vous faites une toilette et que vous n'avez ni de geste d'opposition, ni de geste d'agrément, quand le visage est un peu impassible, quand il n'y a pas de communication. Et la question qu'elle s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire ces actes de soins, prendre soin de ces personnes, y compris quand il n'y a pas la relation ordinaire du soin et une parole qui s'échange. Et ce que Lucie Lechevalier-Hurard a observé chez beaucoup d'aides-soignantes, c'est qu'elles miment une conversation. Il n'y a plus une conversation comme il y en a d'habitude, mais elles font d'une certaine façon les questions, une partie des réponses, ou en tout cas elles essayent de mettre des mots sur ce que la personne exprime minimalement, avec son visage, avec ses mots, avec l'attention de son corps. Et c'est ça, être présent auprès des absents. Et elle dit que ces aides-soignantes révèlent une présence maintenue chez les personnes malades, voire la produisent, hein, en parlant, en mimant une conversation, et qu'elles font, elles essayent de surmonter de cette façon-là l'épreuve relationnelle ou l'épreuve de professionnalité que constitue le fait de travailler auprès de personnes avec des troubles cognitifs importants. La dernière chose que je voudrais, et je reviens au film quelques instants, un des fils conducteurs de Still Alice, de ce film, c'est la relation entre Alice et Lydia, qui est interprétée par Kristen Stewart. Alice est inquiète parce que Lydia veut faire du théâtre, veut faire du cinéma, veut pas faire d'études, veut pas s'inscrire à l'université. Elle est très
Lydia inquiète. Qui est sa fille.
Qui est sa fille,
dans
pardon,
le film.
Voilà, qui est sa fille. Très inquiète que sa fille veuille pas faire des études et veuille faire du théâtre ou du cinéma. Et elle essaye, pendant tout le film, elle essaye de la convaincre qu'il faut qu'elle s'inscrive à l'université, et c'est assez conflictuel. Et quand elle est malade, elle recommence. Elle a de nouveau une discussion avec elle, et sa fille dit, et elle lui dit en gros, mais vraiment, avant de plus être là, avant de plus être consciente, j'ai envie de voir que tu es inscrite à l'université, ça me rendrait tellement heureuse. Et Lydia lui dit, mais t'as pas le droit de me faire du chantage avec ta maladie, d'utiliser ta maladie pour me faire du chantage sur mon avenir professionnel. Et Alice lui répond, mais je suis ta mère, bien sûr que j'ai le droit de faire ça, bien sûr je me soucie de toi. Et donc il y a dans ce film, malgré le... ce film ne dit pas que la maladie résout les conflits familiaux, vous allez voir qu'avec avec l'époux, ça va plutôt être un éloignement réciproque, mais avec Lydia, avec cette fille-là, la relation va se creuser, et la relation, être présent auprès des absents, Lydia va être une des seules à demander à sa mère, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que ça fait, comment tu te sens ? Et donc, dans une scène très, très émouvante, Alice lui parle, Alice lui explique. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Les jours sans, c'est horrible. Elle essaye de lui décrire ce que c'est que de vivre avec cette maladie. Et donc, vous voyez que c'est une épreuve de relationnalité, mais je ne voudrais surtout pas qu'on la rabatte sur une relation qui est unique. Vous voyez que dans un simple film avec quelques personnages, on arrive à montrer que cette relation, de temps en temps, elle s'épanouit, de temps en temps, elle est rendue plus difficile. Ici, l'écoute, que vous voyez même dans la posture de l'actrice, l'écoute de la fille envers la mère malade qui lui demande qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis, et Alice qui prend le temps de lui expliquer, qui lui dit tu es la première à me poser la question, essaye de lui décrire. Avec son mari ça va être différent, et Alec Baldwin va finir par partir à la fin du film dans une autre université, poursuivre sa carrière universitaire. Et c'est Lydia, contre toute attente, qui va venir s'occuper de sa mère à la maison, et avec un partage des rôles et une répartition des rôles pour ne pas laisser Alice seule. Donc mon premier point, vous voyez, c'était cette maladie qui crée ce que j'appelle des épreuves de relationnalité ou une épreuve pour nos relations, sans dire qu'elle rend la relation impossible, elle la rend plus difficile, plus exigeante peut-être, mais elle ne la rend pas impossible. De temps en temps, c'est un éloignement, et de temps en temps, comme avec Lydia, c'est un rapprochement. Donc je pense qu'éthiquement parlant, il faut qu'on arrive à ne pas avoir une lecture totalement univoque de ce que cette maladie provoque en termes de relations, notamment avec les proches. Ma deuxième idée, elle touche moins les aidants familiaux et professionnels que la société dans son ensemble. Dans un très beau livre qui est paru en 1977, Susan Sontag, qui est une romancière et une essayiste américaine, le livre s'appelle « La maladie comme métaphore », Susan Sontag dit, je la cite, « À chaque époque, les sociétés ont besoin d'avoir une maladie qui deviennent synonymes du mal et qui couvrent d'opprobre ses victimes. » Sontag montre que différentes maladies, à différentes époques de l'histoire de l'humanité, ont joué ce rôle d'incarner une forme du mal. La peste, la lèpre, la syphilis, le choléra, et plus récemment, la tuberculose, le cancer, le sida. Sontag dit, à partir du moment, à chaque époque, il y a une maladie qui fait figure de maladie mythique, qui cristallise les angoisses individuelles et collectives, qui n'est plus simplement un phénomène naturel, par exemple une accumulation de protéines dans le cerveau, anormale de protéines dans le cerveau, mais qui devient symbolique, qui acquiert un sens historique. C'est pour ça qu'on dit que ça devient une maladie mythique. Elle devient une figure, un emblème, une métaphore, un mythe au sens anthropologique du terme. C'est comme si on cristallisait nos angoisses individuelles et collectives dans une maladie à un moment donné, et ce n'est pas la même. Dans un petit livre qui s'appelle « La maladie du temps », j'ai essayé de montrer en 2014 que, au début du XXIe siècle, c'est d'évidence la maladie d'Alzheimer qui a supplanté le cancer et le sida et qui est devenue la maladie mythique du temps présent. C'est elle qui a une aura négative, c'est elle qui est l'une des plus redoutées, c'est elle qui incarne, je reprends les mots de Susan Sontag, l'idée générique de la défaite. C'est elle qui est désormais le grand ennemi de la vie et de l'espoir, qui cristallise les peurs et les angoisses les plus générales des individus et des sociétés. Et pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à voir toutes les métaphores qu'on peut utiliser sur cette maladie comme quelque chose qui vient grignoter, annihiler l'identité comme une menace absolue pour nos sociétés, avec un regard qui est presque comme si c'était un monstre, un hydre à plusieurs têtes qu'il fallait combattre, et non plus une maladie, un phénomène qu'on peut connaître et essayer, par la recherche notamment, vous venez de le dire, et qu'on peut essayer d'affronter. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'une maladie devienne une maladie mythique ? Ben, ça a des effets extrêmement pernicieux, ça a pour effet de stigmatiser les personnes qui en sont atteintes, ça fait qu'on hésite à leur parler, ça fait qu'on hésite à être proche d'eux, ça fait qu'on a tendance à les mettre à distance, ça fait qu'on n'est pas du tout dans une attitude de compréhension vis-à-vis d'eux. Et c'est pour ça que à l'espace éthique Île-de-France où je travaille et porteur de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurologiques évolutives, c'est pour ça que quand on fait de l'éthique, nous on le lie à des questions sociétales. Notre université d'été, ça c'était il y a 2 ans à Nice, s'appelle l'université d'éthique éthique et société, parce que ce sont des maladies qui ont tendance à exclure. Je vais revenir sur cette diapo dans un instant. C'est des maladies qui ont tendance à exclure et on pourrait les voir comme des formes de handicap et comme occasionnant en tout cas une forme de handicap cognitif évolutif. À partir du moment où vous vous dites la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, c'est pas d'abord un handicap, mais elle occasionne un handicap cognitif évolutif, mémoire, langage, orientation, fonction exécutive, etc. Qu'est-ce que fait la société pour rester accessible, ouverte aux personnes qui vivent à ces maladies? Qu'est-ce que fait la société pour rester inclusive vis-à-vis des personnes porteuses de ces maladies? La société, elle a une action vis-à-vis des personnes handicapées, en général, notamment pour le handicap moteur, le handicap auditif, le handicap visuel. Qu'est-ce qui est fait pour les personnes avec un handicap neurocognitif? Il n'y a pas beaucoup de choses, il y a quelques endroits où il y a des choses intéressantes, à Rennes notamment depuis plusieurs années, et nous on est en train de développer avec la ville de Nice un programme expérimental qui s'appelle Éthique, territoire et maladies neuroévolutives. C'est très concret, c'est de l'éthique très concrète. On travaille avec les commerçants, les transporteurs, la police, la gendarmerie, tous ceux qui sont amenés dans la société à rencontrer des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont par exemple amenés à chercher quelqu'un qui s'est perdu, des commerçants qui sont amenés à trouver quelqu'un dans leur boutique ou devant qui a l'air désorienté. Et comment on rend la société et la ville plus accueillantes, parce que plus sensibilisées et moins anxieuses vis-à-vis de ces pathologies. Donc là, je pense que il importe vraiment qu'on ne réduise pas l'éthique à quelque chose qui soit juste dans la relation interindividuelle à autrui. L'éthique, elle a une dimension politique au sens noble du terme, hein, au sens de la vie de la cité. On pourra avoir les services de santé les meilleurs pour prévenir guérir, accompagner ces maladies, il reste que pendant au moins un certain temps, elles vont rester comme occasionnant des difficultés dans la vie quotidienne. Et si on ne veut pas que ça entraîne de la stigmatisation, de la réclusion, du renvoi aux marges de la société, on a besoin de ce travail de sensibilisation de tout un chacun qui n'est pas très très compliqué à faire. Il faut faire baisser le niveau de peur et essayer d'équiper les uns et les autres avec des réponses possibles.
Je vous rappelle, je vous coupe une seconde, que si vous avez des questions à poser à Fabrice Gzil et à son très intéressant exposé, il ne faut pas hésiter à le faire, écrivez sur des papiers et moi je me ferai l'interprète de vos questions, je vous les porterai en direct. Merci.
Je me suis situé du point de vue des proches aidants et des professionnels, je me suis situé du point de vue de la société. Il me semblait très important de souligner que des questions d'éthique, les personnes malades s'en posent elles-mêmes. Que lorsqu'on est atteint d'une maladie neurologique évolutive, quand on reçoit un diagnostic, en France on a la chance que ce diagnostic y soit posé de plus en plus tôt, on se pose un certain nombre de questions. Je ne vais pas les évoquer toutes, mais je vais simplement en lister quelques-unes. Et donc la question est de savoir qu'est-ce que c'est que vivre avec une maladie évolutive et quelles questions d'éthique ça peut poser. Ça, c'est une des scènes les plus déchirantes du film. Alice n'a pas encore eu son diagnostic, mais elle a fait des tests et elle a compris qu'elle avait des scores effondrés sur beaucoup d'items. Donc elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se perd, elle a des manques de mots récurrents, ça ne s'améliore pas. Pourtant, elle est en bonne santé par ailleurs. Ils ont évacué un certain nombre de causes curables. Donc le diagnostic n'est pas encore confirmé, mais Alice a compris ce qui se passe. Et donc elle réveille son mari en pleine nuit pour lui dire ce qui lui arrive. Je pense que ça, cette première image, c'est une scène vraiment très dure du film, et de quelqu'un qui en plus dit à son mari « mais mon cerveau est en train de foutre le camp ». Et moi, elle ne le dit pas comme ça, mais elle dit « tout ce pourquoi je me suis battue dans ma vie, tout ce que j'ai appris ». C'est une universitaire, c'est une savante. Elle a appris de la linguistique, elle a lu des centaines et des centaines de livres, et c'est ça qui lui échappe. Et elle dit « moi, tout ce pourquoi je me suis battue est en train de m'échapper ». Donc, vous voyez ça peut représenter pour elle. Deuxième épreuve qu'elle fait, c'est que elle est atteinte d'une forme très rare de maladie d'Alzheimer, qui est une forme familiale. L'une de ses filles va avoir des enfants a reçu le gène, et au moment où Alice lui propose, comme elle l'a toujours fait vis-à-vis de sa fille, de venir la voir, de venir l'aider, sa fille la repousse, il dit non mais ça je vais le gérer seul. Et donc voilà, juste sur l'image que vous avez là à l'écran, c'est le vécu d'une mère qui, du fait de sa maladie d'une part, des gènes qu'elle a transmis bien involontairement, se voit dans la difficulté de jouer son rôle de mère auprès de sa fille, qui estime, on n'a pas jugé sa fille, mais qui estime que dans cette circonstance-là, c'est difficile. Il y a un moment très intéressant du film où Alice Holland va parler à l'association Alzheimer américaine. Et elle va parler d'elle-même. Et elle va dire ce que c'est, essayer de dire ce que c'est que de vivre avec une maladie d'Alzheimer. Au début, elle prépare un exposé comme le ferait le docteur Olivier Ladoucette, où elle parle des protéines amyloïdes, des dégénérescences fibrillaires. Et sa fille lui dit quand même, maman, tu ne veux pas plutôt parler de ce que tu vis. C'est juste, tout ce que tu dis, c'est important, mais toi, tu n'es pas, pas neurologue, tu n'es pas biologiste. Est-ce que tu ne veux pas plutôt parler de ce que ça te fait de vivre avec cette maladie ? Et donc Alice dit la chose suivante, je suis quelqu'un qui vit avec une maladie d'Alzheimer à début précoce, j'apprends tous les jours l'art de perdre, toute ma vie j'ai accumulé des choses, j'ai travaillé énormément pour cela, maintenant tout disparaît, nous, ayant des troubles cognitifs, nous devenons ridicules, mais ce n'est pas nous, c'est notre maladie, pour le temps qui reste, je suis toujours vivante, j'ai des personnes que j'aime et qui m'aiment, et je veux faire face dans ma vie. Je ne souffre pas, je me bats pour rester partie prenante des choses, pour rester connectée avec ce qui est important pour moi. J'étais quelqu'un qui savait beaucoup de choses, plus personne ne me demande mon opinion ou mon avis, ça me manque. J'étais quelqu'un de curieux et d'indépendant et j'avais confiance en moi. Cela me manque de ne plus pouvoir être sûr des choses. Il n'y a aucune tranquillité dans le fait d'être incertain de tout en permanence. Cela me manque de pouvoir faire les choses facilement. Cela me manque de ne plus pouvoir être partie prenante des choses qui se passent. Je manque le fait qu'on ait besoin de moi et qu'on me demande régulièrement mon avis. Donc là, elle décrit tout ce que j'ai décrit dans la deuxième partie, hein, les effets de disqualification qu'entraîne un diagnostic de maladie d'Alzheimer, la présomption d'incompétence que cela peut occasionner.
Quand je me lève, c'est toujours très très mauvais signe. Ça veut dire que, comme je suis la gardienne du temps, il ne vous reste plus beaucoup de temps, mais vous pouvez quand même continuer.
Oui, mais je prends 5 minutes. Je crois que j'ai commencé à 16, il est 40. Je prends juste 5 minutes pour le dernier. C'est le moment philosophiquement le plus déroutant du film. Quand Alice a son diagnostic confirmé, elle va visiter une maison de retraite. Pour elle-même. Pour essayer de trouver un endroit où elle serait bien et pour, dit-elle, ne pas peser sur ses proches. Le problème, c'est que la directrice de la maison de retraite, qui est un endroit idéal, leur philosophie d'accompagnement est vraiment idéale, sauf que la directrice de la maison de retraite pense qu'Alice vient pour son père ou sa mère. Et donc, il y a un malentendu pendant toute la visite sur ce qui est en train de se passer. Et à la sortie, Alice écrit sur son téléphone, elle programme son téléphone pour lui poser tous les jours 3 questions. Quelle est ton année de naissance? Quel est le nom de ta rue? Quel est le nom de ta fille aînée? Le prénom de ta fille aînée? Et tous les jours, son téléphone va lui poser ces questions. Et il est écrit, si tu n'arrives pas à répondre à ces 3 questions, va sur ton ordinateur, il y a un fichier vidéo, lance le fichier vidéo. Et sur le fichier vidéo, elle s'enregistre elle-même. Elle dit, bonjour Alice, je suis toi. Et elle programme son suicide. Elle a mis un paquet de pilules dans une commode et elle se télécommande à distance dans le temps en essayant d'anticiper que le jour où elle ne pourra plus répondre à cette question, elle mettra fin à ses jours. À ce moment-là de sa maladie, Alice pense, elle est encore en relative bonne santé, Alice pense que la vie avec des troubles cognitifs avancés ou modérés ne vaudrait plus la vie d'être vécue, ou en tout cas elle s'interroge sur le sens que cela peut avoir. Ce que le film montre au contraire, c'est que même à un stade où d'évidence Alice ne pourrait plus répondre à ces questions, à ces 3 questions, il se noue dans sa vie quelque chose d'extrêmement important, qui est une réconciliation avec sa fille cadette, avec Lydia, qui s'occupe d'elle. Et il y a pour elle des moments qui sont vraiment encore, où elle est véritablement encore elle-même, qui font véritablement sens pour elle, dans sa relation aux autres, et dans des moments d'échange, c'est la toute dernière scène du film, et c'est ma conclusion, avec sa fille, où elle reste totalement capable de percevoir le sens d'un texte littéraire. Sa fille vient de lui lire un texte de théâtre. Il dit, maman, qu'est-ce que t'en as retenu? Et elle lui dit, ça parle d'amour. Et donc il y a une double lecture de ce texte qui parle d'amour et de l'amour entre la fille et la mère qui est totalement préservée. Et on se dit, heureusement que Alice a perdu son téléphone, heureusement que le stratagème qu'elle avait elle-même mis en place pour se téléguider à distance et mettre fin à ses jours n'a pas fonctionné, parce que à ce moment-là, qui est un stade où la maladie est bien avancée, elle continue elle d'avoir des expériences qui font sens pour elle, et elle continue d'avoir des relations significatives avec sa fille. Je continue avec une... Alors ça, c'est, si vous voulez aller plus loin sur ce que je vous ai dit, c'est 2 ouvrages que j'ai fait paraître aux presses universitaires de France. Le premier est un tout petit ouvrage que je vous ai cité qui s'appelle « La maladie du temps », l'autre est un peu plus consistant, « Problème philosophique ». Je finis avec 5 lignes de Pierre Pachet. Pour moi, c'est un des plus beaux livres sur la maladie d'Alzheimer qui a été écrit. Pierre Pachet n'a pas accompagné son épouse, mais sa mère, et le livre s'appelle « Devant ma mère », il est chez Gallimard. C'est le début, c'est les premières lignes. Et vous allez voir ce que ça veut dire le nom d'abandon. « Enfant, m'a-t-on dit, je voulais être avec ma mère, ne pas la quitter, qu'elle ne me quitte pas. À présent, je ne peux plus être avec elle, ni même près ou auprès d'elle. » Dans l'état où elle est, ce que je peux espérer en allant la voir et en y passant du temps, c'est qu'elle regardera dans ma direction sans me reconnaître vraiment, et qu'elle me permettra ainsi d'être devant elle, de lui parler pour réveiller brièvement sa capacité à mimer une conversation, de lui donner à manger. Je la reconnais, je la regarde, l'écoute avec curiosité et douleur, pris dans cette relation étrange, asymétrique, qui demande que je lui donne du temps, malgré notre connivence humoristique de toujours, à présent presque totalement détruite, je me sens devant une figure très ancienne, une statue, faiblement animée, mais puissante, monumentale. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Fabrice Gil, pour votre exposé super complet et qui vraiment donne à voir toute la subtilité, la délicatesse dans laquelle les relations peuvent se faire entre une personne touchée par la maladie et son entourage. On voit que dans cette histoire, d'ailleurs, l'actrice décide assez vite de parler à son mari, à ses enfants. Elle est vraiment dans la transparence. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des choses qui maintenant se font plus couramment? Vous parliez un petit peu de la notion de tabou en début d'exposé. Est-ce que quand même, au fil du temps, vous avez l'impression que les choses bougent dans le bon sens? Comment est-ce que vous ressentez les choses?
Je pense qu'Alice est un personnage qui est volontaire, qui maîtrise sa santé, qui maîtrise sa vie, qui a tout choisi et qui est vraiment une personnalité de type volontariste. Et donc face à ce type d'épreuve, elle veut garder la main. Et une façon pour elle de garder la main, c'est d'anticiper, d'en parler très vite à ses proches. Elle en parle à ses enfants quand même parce que c'est une maladie, une forme familiale. Elle en parle à ses collègues de travail parce qu'à l'université, elle a des difficultés, que les étudiants se plaignent. Donc je pense que... oui, elle est peut-être un peu moins tabou. Peut-être que je réécrirai plus la maladie du temps aujourd'hui parce que le Covid est passé par là et c'est peut-être le Covid, la maladie mythique des années 2020 et quelques, plus qu'Alzheimer. Peut-être que la période où Alzheimer était la maladie mythique, ça a été 2000-2020 et que c'est terminé. Si c'est terminé, c'est une bonne nouvelle pour les malades. Ça veut dire que cette pression de tabou va tomber progressivement, alors qu'il reste, vous l'avez dit, monsieur, le tabou lié à l'âge, le tabou au handicap, etc. Mais elle cessera d'être cette maladie emblématique qui terrorise. Donc je pense que le film montre certes qu'elle est volontaire, qu'elle en parle, mais qu'elle en parle aussi parfois parce qu'elle n'a pas le choix d'en parler, et à ses proches et à ses collègues de travail.